Avant de commencer cette série de leçons, je vous disais donc que j'avais deux tabous à faire sauter et que je mentionnais pour commencer d'un côté la morale. Il faut justifier de parler de littérature et de morale. De l'autre côté, Proust, il faut aussi justifier d'associer les mots Proust et morale. Admettons que dans la première heure, j'ai contribué à lever le premier verrou, mais je continuerai la semaine prochaine. Que vous ayez été convaincu de la légitimité d'une critique éthique, c'est-à-dire, comme j'ai essayé de le suggérer déjà, d'une analyse de l'attention à l'autre, des commerces avec l'autre, pour reprendre le terme de Montaigne, de ces petites interlocutions, telles que je les ai trouvées dans les trois exemples que j'ai cités, et notamment dans le dernier, l'échange entre Swann, Vinteuil et les parents du narrateur à Combray sur les convenances, les bienséances, le tact. Mais le second obstacle est tout aussi sérieux. C'est la réputation d'immoralisme ou d'amoralisme de Proust. Cet immoralisme ou cet amoralisme qui lui a été longtemps reproché, en particulier durant son assez long séjour au purgatoire, du milieu des années 20 au milieu des années 50. Au temps du surréalisme, du roman engagé, du roman social. Proust a été longtemps condamné au nom de critères explicitement éthiques, en raison de son snobisme, son absence d'engagement. Mais il me semble que le débat moral a porté le plus nettement qui soit sur l'indécence de l'œuvre, l'impudeur de l'œuvre, l'obscénité de ce roman. Si l'étiquette d'immoralité ou d'amoralité a été si longtemps collée à Proust et à la recherche du temps perdu, c'est que ce qui a indigné d'un point de vue moral, cela a été le traitement abondant de l'homosexualité à partir de Sodome et Gomorre 1. Cette question de la moralité de l'œuvre, ou de son indécence, de son obscénité, cette question de la bienséance, on ne peut pas dire que Proust l'ait ignorée. Elle le préoccupe depuis longtemps. Elle le préoccupe depuis Les plaisirs et les jours, depuis ses premières tentatives littéraires. En mai 1908, au moment où il ébauche ce qui deviendra le projet du Contre-Sainte-Beuve, puis la recherche du temps perdu, il évoque dans une lettre à un de ses amis, Louis d'Albufera, une liste de projets qu'il a en cours, projets qui se rejoindront ensuite. Et parmi eux, dit-il, un essai sur la pédérastie, entre parenthèses, pas facile à publier. Autrement dit, il a tout de suite, et il a toujours eu conscience, du grief qui pourra être élevé contre l'œuvre avant même qu'elle ne soit entamée. Dans les années qui suivent, à chaque fois que Proust entre en contact avec un éditeur pour publier le roman qu'il a en cours, il prévient cet éditeur dès les premiers échanges. Et il lui dit, par exemple, à Alfred Valette, en 1909, on est donc très loin de la recherche du temps perdu, lorsqu'il envoie à Alfred Valette pour le Mercure de France. Alfred Valette est le mari de Rachilde, ce n'est pas quelqu'un qui devrait avoir trop froid aux yeux. Proust lui écrit quand même que ce livre est extrêmement impudique en certaines parties. Il précise, sans doute beaucoup de parties sont convenables, très pures même, mais il y a aussi des parties obscènes qui, dit-il, interdisent une prépublication dans le Figaro. Et c'est pourquoi il s'adresse à Valette pour le Mercure de France, pensant précisément que le Mercure de France n'aura pas la même pudibonderie. Mais enfin, il rassure encore Valette dans une parenthèse, il n'y a pas l'ombre de pornographie. En 1912, à une étape suivante de la rédaction de ce roman, on n'en est plus au Contre Sainte-Beuve, on en est déjà à la première version de La recherche du temps perdu, Proust lui écrit encore en l'avertissant que le manuscrit qu'il lui livre est ce qu'on appelait autrefois un ouvrage indécent, et beaucoup plus indécent même que ce qu'on a l'habitude de publier. Et, comme toujours, ce qu'il annonce, c'est le personnage de Charlus, destiné à devenir, plus tard, parce que ce n'est pas dans les parties qu'il livre à l'éditeur à ce moment-là, destiné, Charlus se découvrira être un pédéraste, un misanthrope d'avoir souffert des hommes. Quand il entre en contact avec Gaston Gallimard en 1912, devant ses refus successifs qu'il accumule, il évoque de la même façon l'extrême indécence de cet ouvrage. Mais il ajoute que le point de vue métaphysique et moral, prédomine partout dans l'œuvre. Enfin, à Bernard Grasset, et cette fois la publication aura lieu, il écrit au début de 1913 que l'extrême licence et indécence de certaines parties caractérise cet ouvrage. Et enfin, au moment où il passe à la NRF chez Gallimard en 1916, à ce moment-là, il doit bien introduire un volume qui s'appelle désormais « Sodome et Gomorre ». Il précise que ce volume est sans aucune intention immorale, ai-je besoin de vous le dire ? Vous le voyez que Proust sait bien à quoi s'expose cette œuvre. On a parfois pensé qu'il y avait un petit peu de duplicité de sa part, puisque dans une lettre à Grasset, il prévoit aussi de meilleures ventes pour le volume indécent. Mon second volume, dit-il, sera peut-être d'une meilleure vente, car il est infiniment plus narratif, et peut-être aussi parce qu'il est plus indécent. mais je regretterai que ce fût la cause de son succès. Lors de la publication de Du côté de chez Swann en 1913, la scène de Montjouvain entre Mademoiselle Vinteuil et son ami a tout de suite été condamnée d'un point de vue moral par Francis James dans une lettre à Proust et par Paul Soudé, le critique du temps. Il n'empêche que la défense d'un Proust moraliste, puisque d'un côté il y a l'étiquette d'immoral ou d'amoral, mais de l'autre il y a l'étiquette de moraliste. Il n'empêche que l'étiquette d'un Proust moraliste, à la manière de La Rochefoucauld ou de La Bruyère, est vite devenue une idée reçue, après avoir été lancée par Léon Daudet dans l'Action française, au lendemain de l'attribution à Proust du prix Goncourt, pour lequel le soutien de Léon Daudet avait été utile, sinon déterminant. Léon Daudet est donc, dès 1919, après Les jeunes filles en fleurs, l'un des premiers à comparer Proust au grand moraliste du XVIIe siècle, ce qui deviendra un lieu commun, à le situer dans la lignée, dit-il, de nos meilleurs moralistes et analystes du cœur humain, un Saint-Évremond, un La Bruyère, un La Rochefoucauld. Et quelques semaines plus tard, c'est une ligne d'apologie de Proust qui est reprise par Jacques Rivière, dans un article célèbre, Marcel Proust et la tradition classique, publié en février 1920 dans la NRF. Cette fois-ci, Rivière fait de Proust un successeur de Stendhal. Dans la recherche de la vérité sur soi, dans l'analyse de soi, et de l'autre. Stendhal qui, lui-même, se réclamait de ces moralistes français du XVIIe et du XVIIIe siècle. Mais on ne peut pas oublier que, dans cette référence au XVIIe siècle, à côté d'elle ou contre elle, il y a une référence à une œuvre qui a donné toute son actualité à cette question, c'est celle de Gide, dont un titre est précisément « L'immoraliste » en 1902. En tout cas, le débat sur l'œuvre de Proust, amoral ou moraliste, est très rapidement posé en ces termes. Et Proust reçoit, par exemple, le soutien de François Mauriac. En 1921, c'est à propos du côté de Guermantes, et donc encore avant Sodome et Gomorre, l'inflexion du roman vers l'inversion n'est pas établie à ce moment-là. Et Mauriac prend la défense de Proust et de son roman en ces termes. Et sans doute, il déplaira aux moralistes, qui sont les moralistes ici, non pas les grands moralistes, mais le mot a cette connotation péjorative également en français. Sans doute, ce roman déplaira aux moralistes, c'est-à-dire ceux qui se plaisent ou qui se complaisent à moraliser, ceux qui sont des défenseurs de la petite morale, ceux qui sont attachés au formalisme de la morale. Sans doute, il déplaira aux moralistes que dans ce monde recréé, jamais ne se révèle une préoccupation d'ordre religieux. Monsieur Marcel Proust estime peut-être que ce n'est pas là son affaire. Mais ne collabore-t-il pas avec le moraliste ? Et d'un côté, les moralistes, les dames patronesses, de l'autre côté, le moraliste, celui qui sait se placer d'un point de vue moral supérieur. Mais ne collabore-t-il pas avec le moraliste s'il est vrai que nous lui devons une somme de la sensibilité contemporaine ? Ce texte de Mauriac est à l'origine d'un grief majeur, souvent porté contre Proust, cette absence de transcendance, cette absence de préoccupation d'ordre religieux, cette description d'un monde sans croyance. Mais vous le voyez, chez François Mauriac, cette réserve était assortie d'un éloge. Somme de la sensibilité contemporaine, œuvre donc d'un moraliste supérieur. Et Mauriac poursuivait en disant « Dès lors qu'il ne soit plus, à propos de cette œuvre, question d'immoralité. » L'examen de conscience est à la base de toute vie morale et Proust projette dans nos abîmes une lumière terrible. Il est donc déjà question d'immoralité avant Sodome, à cause de Montjouvain, à cause de la jalousie de Swann pour Odette, et néanmoins, pour Mauriac, une œuvre qui s'inscrit dans la lignée de l'examen de conscience par la littérature et donc de l'analyse de la vie morale. Bien sûr, cette défense sera très vite mise à mal après Sodome et Gomorre 1, publié en 1921 à la fin du côté de Guermande 2. C'est le dernier volume, c'est ce qui est publié avant la mort de Proust, et dans l'article qu'écrit François Mauriac à la mort de Proust, dans la revue hebdomadaire, c'est l'un des articles qui est le plus souvent cité dans cette condamnation morale de Proust. Mauriac écrit, tout cela sera repris partout, pendant 30 ans, Dieu est terriblement absent de l'œuvre de Marcel Proust. Du seul point de vue littéraire, c'est la faiblesse de cette œuvre et sa limite. La conscience humaine en est absente. Aucun des êtres qui la peuplent ne connaît l'inquiétude morale, ni le scrupule, ni le remords, ni ne désire la perfection. Presque aucun qui sache ce que signifie la pureté. Le défaut de perspective morale appauvrit l'humanité créée par Proust, rétrécit son univers. Le jugement est assez sévère. Non seulement manque de transcendance, mais en raison de ce manque de transcendance, de ce manque de foi et de grâce, des personnages qui sont, au fond, des monstres moraux, sans inquiétude morale. Mais vous voyez aussi la prudence de François Mauriac, qui évite de porter un jugement moral sur l'œuvre, mais qui dit que l'absence de transcendance est un défaut littéraire, est une insuffisance littéraire. Il prétend porter un jugement littéraire sur les déficiences d'une œuvre que l'absence de Dieu diminue. On peut sans doute se souvenir ici qu'on est en 1922 dans un contexte de grande dispute critique sur le dernier récit de Barrès, Un jardin sur l'Oronte, très attaqué par la critique morale, la critique catholique, les mêmes dans ces années-là. Mauriac reviendra à plusieurs reprises sur cette condamnation morale de l'œuvre de Proust. Par exemple, dans un texte de 1924, où il associe Gide, Proust et Barrès, les trois écrivains les plus influents, qui ont cherché la sincérité totale, mais qui ont conduit à l'indifférence et à l'abandon. Et on retrouve la même idée, hein. Le monde de Proust est fondé sur la bonté, le scrupule, le sacrifice, le monde que Proust a fréquenté, mais Proust lui-même a toujours paru concevoir la vie comme si ce monde sublime n'existait pas. Et c'est pourquoi ce cliché d'immoralisme ou d'amoralisme se retrouvera partout dans ces années-là. Au fur et à mesure que les volumes successifs de la recherche sont publiés, La prisonnière, La fugitive ou Albertine disparue, et enfin Le temps retrouvé, le procès ne cesse d'être instruit. Benjamin Crémieux écrit en 1924 « L'immoralisme, ou si l'on préfère, l'amoralisme de Proust a souvent été noté. Dieu est absent de son œuvre. La notion de péché en est également absente. » Mais, je crois que Crémieux résume bien le point de vue qui est adopté à ce moment-là, il y a une morale de Proust, c'est le « connais-toi toi-même » de Socrate. Et chaque personnage, ajoute Crémieux, est capable des meilleures et des pires actions. En général, lorsqu'on évoque cette faculté pour les plus méchants d'être parfois bons, on cite une scène qu'on sera amené à analyser puisqu'elle est fondamentale dans cette perspective. Ce sont les persécutions des Verdurins à l'égard de leur souffre-douleur Saniette. Et malgré cela, ils lui font la charité tout en souhaitant que cette charité reste secrète. Et Crémieux d'ajouter, le psychologue, en mettant au jour tous les ressorts de l'inconscient, en les empêchant de jouer par traîtrise, fait œuvre de moraliste. Encore une fois, on peut dire que cela nous rappelle cette filiation stendhalienne, avec cette seule morale qui est dans la connaissance de soi, et qui se suffit à elle-même. Albert Thibaudet, dans le numéro d'hommage de la NRF, et c'est l'un des textes les plus intéressants sur Proust moraliste, dans le numéro d'hommage de la NRF à la mort de Proust en janvier 23, voit ainsi en lui un successeur de Montaigne. Quand Proust, cependant, le portraitiste, le mémorialiste, le romancier, ne nous fasse pas oublier le moraliste. On réunira sans doute un jour, en un volume, les réflexions psychologiques et morales qu'il a semées dans les pages de son œuvre. Et l'on verra à quel point il se relie à la pure lignée des grands moralistes français. Ce sera pour certains bons esprits qui ne peuvent pas le supporter une découverte et une confusion. À ce point de vue, on peut le considérer comme le représentant actuel de la famille des analystes subtils qui, depuis Montaigne, a si rarement chômé chez nous. Montaigne à Proust, c'est évidemment une filiation qui n'est pas pour me déplaire, mais vous voyez que Thibaudet imaginait ce recueil de maximes morales qu'on pourrait extraire de la recherche du temps perdu et qui confondrait les ennemis du roman. Un peu comme Pierre Charon l'avait pratiqué avec les essais de Montaigne. Des anthologies de la recherche du temps perdu existent. Il y a eu des morceaux choisis, publié par la librairie Gallimard, dès 1928, avec une préface de Ramón Fernández. Et Ramón Fernández écrivait dans les premières lignes de cette préface de l'anthologie de la recherche du temps perdu, « Nous avions d'abord songé à une composition thématique. » Autrement dit, des fragments, disait-il, sur l'amour, la mort. À ma connaissance, il n'y a pas en français, mais je me trompe peut-être, de recueil de sentences extraites de la recherche du temps perdu. J'en parlais dernièrement à une amie à Barcelone qui m'a envoyé depuis ce petit livre, Marcel Proust, Maximas y Pensamientos, Aphorismos, compilation donc de deux compilation d'un catalan, Carles Besa, et traduction de Luis Maria Todo. Dans ce petit livre, nous trouvons 452 maximes extraites de la recherche du temps perdu, classées en cinq sections, comme Ramón Fernández l'avait imaginé, l'homme, la société, l'amour, le temps et la mémoire, l'art. Nous avons tous recueilli des sentences dans la recherche du temps perdu. En voici quelques-unes parmi les plus brèves. Les quoique sont toujours des parce que méconnus. On pardonne les crimes individuels, mais non la participation à un crime collectif. Le plus dangereux de tous les recels, c'est celui de la faute elle-même dans l'esprit du coupable. On devient moral dès qu'on est malheureux. Il y en aurait beaucoup pour alimenter ce cours. Jacques Rivière défend à son tour Proust contre l'amoralisme dans la NRF de 1924. Il dit que le débat est constant dans ces années. C'est dans un texte intitulé « Lettre ouverte à Henri Massis sur les bons et les mauvais sentiments ». On le voit, d'un côté il y a Barrès et Un jardin sur l'Oronte qui alimente la polémique sur la morale et la littérature, et de l'autre, il y a bien entendu Gide, le Gide de l'immoraliste, mais aussi le Gide qui a publié Coridon et qu'il a publié sous son nom en 1924, après Sodome et Gomorre, et qui publiera bientôt en 1926 Si le grain ne meurt. Gide qui est attaqué par Henri Massis, lié à l'Action française, à la droite catholique et à la revue Universelle. C'est donc dans ce débat et dans cette assimilation avec Gide qu'il s'agit de défendre Proust, et Rivière s'en prend à cette critique morale, moraliste ou moralisatrice. Mais lui-même n'est pas un défenseur de Proust totalement engagé et totalement convaincu. Et il existe un petit livre qui recueille un débat entre Ramón Fernández et Jacques Rivière, deux amis, deux alliés de Proust, un livre intitulé « Moralisme et littérature », publié en 1932, recueillant un débat entre Fernandez et Rivière, qui a eu lieu en 1924, hein, Rivière est mort entre-temps, sur le moralisme en littérature. Et Rivière approuve l'amoralisme de Proust, dit-il, qui lui permet de créer des personnages vivants, sans parti pris moraux. Mais en même temps, il concède que l'absence de dimension morale des êtres humains et la grande insuffisance de Proust. On n'en est même pas encore à Albertine disparue, puisque c'est Albertine disparue qui, sera beaucoup plus difficile à accepter par les critiques moraux ou moralistes ou moralisateurs de Proust en 1926. En 1926, la réaction contre Proust est à l'ordre du jour, et ce qui produit notamment le malaise, c'est la révélation de l'homosexualité de Saint-Loup. Malgré toutes les précautions, toutes les justifications du narrateur. J'évoquais, il y a un moment, ces auto-justifications si fréquentes dans la recherche du temps perdu. Eh bien, regardons-là, cette justification dans Albertine disparue, qui n'a pourtant pas suffi à apaiser les critiques moralistes. Au moment de l'introduire, le narrateur nous dit ceci. « Personnellement, je trouvais absolument indifférente au point de vue de la morale qu'on trouvât son plaisir auprès d'un homme ou d'une femme et trop naturel et humain qu'on le cherchât là où on pouvait le trouver. » Indifférent au point de vue de la morale qu'on trouvât son plaisir d'un côté ou de l'autre. Bon, la formule rappelle une formule qu'on trouve dans Sodome et Gomorrhin, justement, « Tout être suit son plaisir ». Formule qui rappelle elle-même cette loi du plaisir dont Stendhal parle tellement et qu'il rattache à la formule de Virgile dans la deuxième églogue « Trahit sua quemque voluptas ». Traverse toute la tradition occidentale. Tout être suit son plaisir ou cherche son plaisir. Pourtant, la liaison de Saint-Loup et de Morel choque, blesse le narrateur lui-même. Autrement dit, cette réaction des lecteurs, elle est en quelque sorte exorcisée, mais ça n'a pas suivi dans le texte lui-même. Non en raison de la morale, dit-il, ou en raison d'une autre morale, puisque ça ne gêne pas que tout être cherche son plaisir. Cette révélation, dit-il, lorsqu'elle a lieu dans Albertine disparue, lui fait une peine infinie, lorsque la vérité lui est indiquée par Jupien. Jupien, que cette liaison de Robert, de Saint-Loup et de Morel scandalise lui-même, surtout le comportement de Morel. Que dit Jupien ? Non, que ce misérable musicien ait quitté le baron comme il l'a quitté, salement, on peut bien le dire, c'était son affaire. Mais se tourner vers le neveu, il y a des choses qui ne se font pas. Vous le voyez, il y a une morale de l'immoralité, un sens de l'honneur, un code de l'honneur, un point d'honneur chez les bandits. Et le narrateur ajoute, Jupien était sincère dans son indignation. Chez les personnes dites immorales, les indignations morales sont tout aussi fortes que chez les autres. Et change seulement un peu d'objet. Entre parenthèses, voici encore une sentence du narrateur. Il est donc naturel que tout être cherche son plaisir où il peut le trouver, et le narrateur a bien du mal à expliquer pourquoi il est tant affecté par la révélation sur Robert de Saint-Loup. Si donc Robert n'avait pas été marié, sa liaison avec Charlus n'eût dû me faire aucune peine. Et pourtant, je sentais bien que celle que j'éprouvais eût été aussi vive si Robert était resté célibataire. Tout est toujours beaucoup plus compliqué. De tout autre, ce qu'il faisait m'eût été bien indifférent. Mais je pleurais en pensant que j'avais eu autrefois pour un Saint-Loup différent une affection si grande et que je sentais bien à ses nouvelles manières froides et évasives qu'il ne me rendait plus. Les hommes, depuis qu'ils étaient devenus susceptibles de lui donner des désirs, ne pouvant plus lui inspirer d'amitié. Ensuite, Aimé apprend au narrateur que les aventures de Saint-Loup et du liftier avaient eu lieu dès la première année à Balbec, du temps de leur amitié. Ou plutôt, le narrateur repense à cette information qu'Aimé lui avait donnée auparavant et à laquelle il n'avait pas cru sur le moment. L'apprendre de n'importe qui m'eût été indifférent, de n'importe qui, excepté de Robert. Le doute que me laissaient les paroles d'Aimé ternissait toute notre amitié de Balbec et de Doncières. Et bien que je ne crusse pas à l'amitié, ni en avoir jamais véritablement éprouvé pour Robert, en repensant à ces histoires du lift et du restaurant où j'avais déjeuné avec Saint-Loup et Rachel, j'étais obligé de faire un effort pour ne pas pleurer. Vous voyez que ces larmes sont évoquées à plusieurs reprises. On a d'abord le sentiment que c'est cette amitié qui a été trahie, mais en même temps, nous apprenons que, un, le narrateur ne croit pas à l'amitié, et deux, qu'il n'y a jamais eu d'amitié pour Saint-Loup, et au bout du compte, nous ne savons pas le motif de ces larmes et cette émotion. En tout cas, la défense, la justification n'a pas suffi. Il faut ajouter que dans cette condamnation morale qui accompagne Albertine disparue, s'ajoute la question de l'identité d'Albertine qui trouble le jeu. Si les sexes ont été modifiés, que vaut la morale ? L'amour inverti est-il universalisable ? Question posée par un certain nombre de critiques, y compris René Crevel, dans Surréaliste, dans son texte « Mon corps et moi », condamne la transposition proustienne. Que Proust, par exemple, ait fait d'Albert une Albertine, voilà qui m'engage à douter de l'œuvre entière et à nier certaines découvertes qui m'y furent présentées chemin faisant. Cette transposition est qualifiée de tricherie qui tue notre confiance. Enfin, on peut encore citer, pour conclure ce panorama des années 20 et 30 et de cette condamnation de morale de Proust, le témoignage de Bernanos en 1926, c'est-à-dire après Albertine disparue, qui est le volume qui a le plus choqué, encore une fois, notamment à cause de la révélation sur Saint-Loup. Bernanos reprend un certain nombre de griefs formulés par Mauriac. Je ne dis pas seulement que Dieu est absent de l'œuvre de Proust, je dis qu'il est impossible d'y trouver même sa trace. Proust a cru pouvoir se placer au point de vue de l'observation pure. L'état de grâce intellectuelle serait une indifférence totale au bien et au mal. Cette prétention paraîtra soutenable si la loi morale nous était imposée du dehors, mais il n'en est rien, elle est en nous, elle est nous-mêmes. Le comble est atteint dans le livre d'Henri Massis, justement, intitulé « Le drame de Marcel Proust », « Le drame de Proust », publié en 1936, et qui réunit toutes les données de ce réquisitoire. Mais n'oublions pas que cette condamnation morale de Proust, elle n'est pas seulement le fait de cette critique catholique des années 20 et 30, et qu'au fond, le réquisitoire qu'on trouvera du côté du surréalisme était tout aussi violent, ou encore du côté de l'existentialisme. C'est ainsi que Sartre écrivait dans le la présentation des temps modernes en 1945, s'élevant contre ce qu'il appelait la psychologie intellectualiste dans les œuvres de Proust, nous offre l'exemple le plus achevé. Le passage est bien connu, mais je le cite quand même pour nous rappeler comment Proust est revenu de loin. Pédéraste, Proust a cru pouvoir céder de son expérience homosexuelle lorsqu'il a voulu dépeindre l'amour de Swann pour Odette. Bourgeois, il présente ce sentiment d'un bourgeois riche et oisif pour une femme entretenue comme le prototype de l'amour. C'est donc qu'il croit à l'existence de passions universelles dont le mécanisme ne varie pas sensiblement quand on modifie les caractères sexuels, la condition sociale, la nation ou l'époque des individus qui les ressentent. Vous le voyez, c'est le grief de naturalisation de ce qui est toujours relatif. Proust fait de ses affections immuables et il les réduit comme un grand moraliste, comme les moralistes français, dans leur analyse en particules. Et Sartre finit en disant: Proust s'est choisi bourgeois, il s'est fait le complice de la propagande bourgeoise, puisque son œuvre contribue à répandre le mythe de la nature humaine. Il me semble qu'il faut attendre pour trouver un renversement de cette analyse morale, mais vous voyez, ce n'est pas le sens que nous allons explorer dans ces leçons. Mais il est tellement prégnant qu'il faut bien le rappeler. Il me semble que pour voir un renversement de cette analyse et de cette condamnation morale de Proust, il faut attendre les écrits de Bataille. Et là, il y a véritablement un changement de paradigme dans la perception de Proust, en particulier dans un article de Bataille qui... Bataille écrit au début des années 50, ce sont des articles inspirés par Jean Santeuil et le Contre Sainte-Beuve. Et il y a un petit article de Bataille qui est intitulé « La morale liée à la transgression de la loi morale ». Et voilà que nous avons affaire à un Proust nietzschéen, un Proust très au-dessus de la moraline et de la moralité bourgeoise. Bataille souligne que la quête de la vérité chez Proust exige le vice, exige le mensonge notamment. Elle doit se situer au-dessus de la morale conventionnelle. L'impératif moral, ce n'est plus du tout l'impératif ancien ou l'impératif traditionnel, l'impératif moral de la recherche de la vérité implique le recours délibéré au mal, au mensonge. Et souvenons-nous de ce passage d'Albertine disparue, justement. Je crois qu'il n'y a pas de passage de toute la recherche qui définisse aussi nettement une morale au-dessus de la morale. Le mensonge. Le mensonge parfait sur les gens que nous connaissons, les relations que nous avons eues avec eux, notre mobile dans telle action formulée par nous d'une façon toute différente, le mensonge sur ce que nous sommes, sur ce que nous aimons, sur ce que nous éprouvons à l'égard de l'être qui nous aime et qui croit nous avoir façonnés semblables à lui parce qu'il nous embrasse toute la journée, ce mensonge-là est une des seules choses au monde qui puisse nous ouvrir des perspectives sur de nouveau, sur de l'inconnu, puisse ouvrir en nous des sens endormis pour la contemplation d'univers que nous n'aurions jamais connu. Pas de plus belle apologie du mensonge que Bataille retient évidemment pour rendre ces notions de vice et de vertu beaucoup plus compliquées. À la base d'une vertu, dit-il, et le pouvoir que nous avons d'en briser la chaîne. Ou encore, et c'est ceci qui me semble véritablement très nouveau et très fort, Bataille pense à Mademoiselle Vinteuil, à tous ces êtres maléfiques de la recherche du temps perdu, qui ont à ses yeux la véritable morale, parce que, bon, c'est un, là aussi c'est devenu un poncif de la pensée de Bataille, hein, parce que c'est la transgression qui sacralise, c'est la transgression qui confirme la dimension sacrée des choses. S'il y a morale authentique, dit-il, son existence est toujours en jeu. La véritable haine du mensonge admet, non sans une horreur surmontée, le risque pris dans un mensonge donné. Nous vénérons la règle que nous violons. Voilà donc un Proust nietzschéen, très loin cette fois des grands moralistes du XVIIe siècle, et me semble-t-il, et c'est sur ça que je voudrais finir, nous avons une longue page que j'analyserai plus en détail, une longue page de la recherche du temps perdu sur la complexité morale de Bergotte. Bergotte qui, d'une certaine façon, représente cette souveraineté de la morale nietzschéenne que Bataille lit chez Proust. Bergotte, condamné et condamné par Norpois au nom du conformisme et de la morale hypocrite, Norpois voit en lui un faiseur, un menteur, quelqu'un chez qui il y a une profonde incompatibilité entre ce qu'il écrit dans ses livres et l'immoralité de sa vie privée. Mais le narrateur, une fois qu'il a fait sa connaissance, comprend que pour parler comme il le fait dans ses livres, Bergotte doit avoir traversé le vice. Peut-être, dit-il à propos de Bergotte, n'est-ce que dans des vies réellement vicieuses que le problème moral peut se poser avec toute sa force d'anxiété. Souvent les grands artistes, tout en étant mauvais, se servent de leurs vices pour arriver à concevoir la règle morale de tous. Ben, j'arrêterai là pour aujourd'hui, mais vous voyez qu'on a parcouru cette condamnation morale et d'une certaine façon cette rédemption avec Bataille d'une morale supérieure qui nous permet à nous aujourd'hui de reprendre le sujet en délaissant cet héritage des années 20 et 30. Merci.